clôturer la saison 2008-2009, le Théâtre National de la Criée à Marseille propose Le Roi Lear et Richard III, deux chefs-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre de Shakespeare qui seront présentés hors les murs et en alternance du 13 au 17 mai sous le chapiteau du Théâtre Nono à Marseille. Selon Jean-Claude Fall, qui signe ici les deux mises en scène, mais aussi la traduction du Roi Lear, dont il interprète en plus le rôle-titre, ces deux pièces synthétisent sous toutes leurs formes les thèmes récurrents de la tragédie. Le pouvoir, l'amour, la mort, mais aussi l'héritage, la guerre, jusqu'à l'innocence assassinée avec le meurtre de l'enfant. Pour le metteur en scène, monter en diptyque ces deux rois vient du désir de mettre en exergue la figure du père. Deux véritables monstres de théâtre. Le Roi Lear représente le mythe du père dévorateur de ses enfants. En résumé, lorsqu'il décide d'abandonner le pouvoir, Lear convoque ses trois filles et leur demande d'exprimer leur amour pour lui en échange d'une partie du royaume. Si les deux aînés jouent le jeu, Cordélia, la plus jeune, n'y parvient pas. Fureur du roi qui la déshérite et la chasse. C'est le début des tribulations tragiques d'un monarque qui perd la puissance, la raison et la vie. Dans Richard III, c'est tout le contraire. C'est l'absence du père qui domine. C'est cette absence d'autorité qui plonge le royaume et la famille royale dans le chaos. Les héritiers vont s'entretuer jusqu'au dernier. Le vainqueur de cette guerre fratricide sera l'enfant renié et rejeté. Richard III, c'est l'enfant roi, ou plutôt le roi enfant, prêt à tout pour accéder à la couronne. C'est le début d'une lutte féroce. Pour illustrer ces drames shakespeariens, un seul décor et une distribution unique, à l'exception des rôles-titres. Jean-Claude Fall dans Le Roi Lear et David Ayala dans Richard III. Afin de réunir ces deux univers dans un même espace, le metteur en scène a imaginé une grande feuille de papier blanc, légèrement courbe, qui recouvre presque toute la scène. Comme si l'histoire du Roi Lear s'écrivait sur cette page par le corps et la parole des acteurs. En revanche, l'histoire de Richard s'écrit avec du sang dans un monde noir et labyrinthique. Une scénographie à deux visages donc, la lande du Roi Lear, balayée par le vent et la pluie, et le palais des crimes de Richard III. Ouvragé comme une grille, ce dispositif permet, suivant la lumière, de figurer une plaine, une prison, un extérieur ou les souterrains du château. Un jeu entre le vide et le plein, le clos et l'ouvert. Quant à la musique qui habille d'ailleurs cette chronique, le metteur en scène a choisi le concerto pour violon et le concerto pour violoncelle de Shostakovitch. De ces grands solos très expressifs, émane une violence ou une douceur purement théâtrale. Alors bonjour Jean-Claude Fall et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre travail sur ces deux pièces qui, semble-t-il, vous tiennent particulièrement à cœur. Alors pourquoi avoir choisi de monter maintenant ces deux chefs-d'œuvre de Shakespeare ?
Tout d'abord, bonjour aussi, et puis merci de m'accorder ce temps. Écoutez, j'ai souvent dit ça, et j'ai beaucoup travaillé sur Shakespeare, mais il y a très longtemps, et je m'étais dit que, décidément, Shakespeare exigeait quelque chose que j'avais l'impression de ne pas avoir encore, en tout cas de ne pas avoir acquis ou réacquis, c'est quelque chose de candide, de tout simple devant une œuvre aussi monumentale. C'est-à-dire que si on n'a pas l'humilité d'accepter de se laisser guider par elle, et si on la force, ces œuvres vous tuent d'une certaine façon.
Excusez-moi, vous n'avez pas travaillé jusqu'à présent sur ces deux œuvres ? C'est la première fois.
J'avais travaillé sur Le Comte d'Hiver il y a très très longtemps, puis j'avais travaillé dans des stages sur Le Roi Lear, sur d'autres pièces, mais je n'avais, après mon expérience du Comte d'Hiver, j'avais eu vraiment l'impression qu'il fallait attendre un mûrissement d'une certaine façon de ma façon de travailler, une simplification aussi de ma façon de travailler, retrouver quelque chose de très candide devant l'œuvre. Et voilà, je m'étais donné un rendez-vous beaucoup plus tard avec Shakespeare et avec ces deux œuvres en particulier, puisque Richard III, c'est une pièce que j'avais beaucoup vue, que j'avais beaucoup aimée, mais que je n'avais jamais vraiment compris d'une certaine façon, parce que je trouvais que c'était souvent obscurci par plein de choses autour de la cour d'Angleterre, l'histoire de la guerre des deux roses, et on n'y comprenait pas toujours grand chose. Et puis Le Roi Lear, c'était voilà, la pièce avec laquelle j'avais rendez-vous depuis toujours, et je savais qu'un jour ou l'autre il fallait que je la monte, et j'avais envie de confronter ces deux monstres, puisqu'il s'agit vraiment de deux êtres monstrueux et de deux pièces monumentales et monstrueuses. Voilà, donc j'avais envie de les confronter sur le thème, sur un thème qui me paraît évident, mais qui n'est pas forcément, c'est sur l'omniprésence du Père, si vous voulez.
Ces deux pièces, on va dire, aujourd'hui, correspondent à une étape dans votre carrière. Est-ce que le fait de les monter, donc, actuellement, est un écho à votre histoire personnelle aussi ?
Je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Forcément, évidemment, il y a des choses qui reviennent à la surface. Par exemple, je ne sais pas, ne serait-ce que ceci, je dois quitter le Théâtre des 13 Vents, mon contrat de direction n'ayant pas été renouvelé, j'y suis resté 12 ans et je ne vais pas me plaindre du tout. Hein. Mais
À Montpellier.
Et donc, quand le roi Lear donne son royaume à ses filles, donc il renonce à l'exercice du pouvoir, j'ai senti dans la salle que les gens le prenaient comme...
C'est pas un hasard, voilà.
...à voir avec ma propre histoire, alors que je n'y avais même pas pensé. Mais tout d'un coup, ça m'a sauté à la figure, vous voyez, ce genre de choses, évidemment. Mais aussi, il y a l'histoire, le roman familial, la guerre des frères par rapport à la mort du père. Dans ma famille, elle n'a pas eu lieu, mais elle aurait pu avoir lieu. Et je veux dire, il y a forcément des liens qui se tissent entre sa propre histoire et ses histoires, puisque ce sont des histoires absolument universelles, bien sûr.
Absolument. Est-ce que dans ce travail de mise en scène et de scénographie, vous avez voulu envisager une relecture de Shakespeare ?
Écoutez, je pense pas de cette façon, même si je réponds positivement à cette question. Si vous voulez, dans Le Roi Lear, il n'y a pas vraiment de relecture. Il y a une lecture extrêmement précise de la pièce. Voilà. C'est ce que tout le monde m'a dit et ce qui m'a fait plaisir, parce que je crois qu'il y a une lecture très simple, très directe, très franche, très lisible. On entend l'histoire de bout en bout avec, je pense, beaucoup de ces ramifications, justement. Il y a une lecture sur le rôle de Cordelia, sur la fonction de Cordelia, sur la fonction du fou, sur la folie, etc., qui est assez claire, assez précise, assez limpide. Dans Richard, j'ai tiré la pièce vers quelque chose, c'est-à-dire que j'en ai expurgé pratiquement toute référence à l'Angleterre, toute référence à la guerre des deux roses, toutes ces choses qui, à mes yeux, obscurcissaient l'histoire, pour ne garder que le cœur de l'histoire, c'est-à-dire le père mort, les trois enfants se disputant le trône, un des enfants dans un cynisme absolu, qui est le seul qui est cette énormité en termes de cynisme, cette capacité à n'avoir aucune loi, qui se débarrasse de tous ceux qui font obstacle à sa prise de pouvoir, et qui dépasse même la mesure, et dépassant la mesure est lui-même condamné à mort. Voilà. C'est une histoire simple, c'est une histoire politique, c'est une histoire de pouvoir.
Mais c'est intéressant de voir comment vont fonctionner ces deux textes mis côte à côte, parce que ce sont quand même deux moments très différents de l'œuvre de Shakespeare. Richard III, c'est une œuvre du début, alors que Le Roi Lear est plutôt une pièce de la fin, avec une écriture aussi différente.
Voilà, absolument. Et ça aussi, c'est intéressant dans la mesure où c'est un diptyque, c'est-à-dire qu'on peut voir presque côte à côte les deux pièces. D'ailleurs, il y a un jour où on va les jouer l'une après l'autre. Et on peut voir, donc, c'est un diptyque, c'est-à-dire que c'est pas une œuvre en deux parties, c'est deux œuvres mises côte à côte et sur lesquelles on peut travailler, c'est-à-dire les confronter, les comparer, voir les liens, voir les différences, etc. C'est vraiment un diptyque et pas une seule œuvre en deux parties. Et la différence des deux écritures est absolument essentielle. C'est-à-dire que l'œuvre de Richard, qui est extrêmement protubérante, prolifique en termes de littérature, c'est une espèce de... On sent l'écriture en train de se chercher, si vous voulez, dans Richard, alors que Lear, qui est une des dernières pièces qu'écrit Shakespeare, c'est probablement la plus simple. L'expression est la plus simple, les phrases sont très courtes, le vocabulaire est très simple aussi, il n'y a pas une prolixité de mots énorme. C'est la pièce qui est complètement... c'est comme s'il avait filtré toute sa poétique et toute sa démesure pour n'en garder que la quintessence. Quoi.
D'accord. À propos de la traduction, pourquoi vous avez décidé de réécrire Le Roi Lear et qu'est-ce qui ne vous satisfaisait pas justement dans les versions existantes? Alors que pour Richard III, vous avez choisi la traduction de Jean-Michel Desprats.
Dans Richard III, la traduction de Jean-Michel Desprats, elle est très, très juste, si vous voulez. Il y a cette profusion dont je vous parlais tout à l'heure, cette poétique. C'est une langue très difficile. Et il faut vraiment être un vrai spécialiste de la langue anglaise et de Shakespeare pour y accéder d'une certaine façon. Et je trouve que le travail qu'a fait Jean-Michel Desprats est absolument magnifique. Ça a toujours été cette version que je voulais faire. Hein. Sur Richard, par contre, je n'ai pas trouvé de version...
Sur Le Roi Lear. Sur le roi Lear,
oui, ouais. Je n'ai pas trouvé de version qui rende compte de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de l'épure à laquelle arrive Shakespeare dans cette langue. J'ai toujours trouvé une poétique trop lourde ou une littérature un peu trop ampoulée, un peu trop précieuse. Il y avait toujours quelque chose qui me déplaisait. Je ne voulais pas faire la traduction, mais finalement, il y avait une version qui me plaisait beaucoup, qui est une version de Jean Gilibert, qui est un des traducteurs de Shakespeare, qui est aussi un metteur en scène, qui est aussi un psychanalyste d'ailleurs. Et cette version me plaisait. Et en travaillant dessus, chez moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'approximations, disons.
Avec justement ces deux pièces qui font référence au père, comme vous l'avez évoqué, à l'histoire familiale, là, dans votre travail, vous semblez tout embrasser à la fois, c'est-à-dire la mise en scène, le jeu aussi, hein, puisque vous interprétez Le Roi Lear, le travail des costumes, la lumière, et même la vidéo, le son. Alors, on a l'impression que vous cherchez vraiment à vous emparer totalement de ces deux œuvres et de leur univers.
Si vous voulez, ce que je crois, c'est que Shakespeare, c'est tout le théâtre. Ça part du théâtre antique et ça arrive au théâtre contemporain. Ça couvre tout le théâtre en termes de proposition théâtrale, hein, en termes d'écriture. Et donc j'avais envie de rendre compte de ça et j'ai travaillé à ce qu'on perçoive ça. Voilà, on perçoive que Shakespeare, ça embrasse toute l'histoire du théâtre et toute l'histoire du monde. Et je pense que c'est la réalité. Et pour pouvoir rendre compte de ça, il fallait que je fasse une proposition la plus ample. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, mais écoute, si tu fais un projet mégalomaniaque, assume-le et fais-le. Et du coup, voilà, je l'ai assumé. C'est vrai que c'est un projet non pas mégalomaniaque, mais c'est un projet où l'homme de théâtre a envie de dire tout son amour pour le théâtre. Voilà.
Alors, le 16 mai, vous proposez, le samedi 16 mai, les deux spectacles donc à la suite. Que pensez-vous de ces spectacles souvent longs et qui marchent d'ailleurs très bien? Comment le public réagit?
Nous, on vient de faire Les Vivants et les Morts d'après Gérard Mordia, un spectacle de 9 heures. Oui. Là, les deux spectacles mis bout à bout font 8 heures, avec une heure et demie de pause. Ça fait aussi 9 heures et demie. C'est des propositions où on demande aux gens de prendre le temps. Voilà. De prendre le temps de se rendre disponible, d'être non pas dans l'urgence et dans la presse, comme dans les spectacles, souvent spectacles formatés, 1h30 maxi, 1h45, surtout pas 2h, et dès qu'on dépasse 2h, ça devient une catastrophe, parce qu'on est dans le zapping intellectuel. Là, on demande aux gens de prendre un autre temps, et les gens ont envie de prendre cet autre temps, de se donner le temps, de respirer longuement le théâtre ou la poésie, la proposition esthétique, etc. Et je pense qu'il y a un vrai plaisir là, de se dire je peux rêvasser, je peux prendre le temps de m'échapper, de revenir. Je suis pas dans la consommation frénétique tout de suite.
Alors pour la musique, vous affectionnez particulièrement Shostakovitch. Qu'est-ce qui a guidé votre choix donc pour ces deux pièces?
Shostakovitch, en ce moment, depuis maintenant plusieurs années, je suis devenu monomaniaque, c'est-à-dire que j'écoute Shostakovitch, je connais pratiquement toute son œuvre, je crois, ou même si c'est un peu présomptueux parce qu'il a tellement écrit, et je me suis rendu compte que petit à petit, c'était devenu, aux yeux de beaucoup de gens, la grande figure de la musique contemporaine du XXe siècle. J'avais comme ça déjà un énorme amour pour ce compositeur, qui a beaucoup écrit pour la scène. Il a beaucoup écrit d'œuvres qui accompagnaient des spectacles de Shakespeare. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Le Roi Lear, un film russe, et qui bénéficie de l'apport de la musique de Shostakovitch. Et donc, je trouvais pertinent de rapporter cette musique dans une pièce de Shakespeare. Par ailleurs, la musique de Shostakovitch, elle a cette puissance, cette simplicité, cette énormité, cette dimension tout à fait gigantesque, qui correspond bien, je trouve, à la simplicité, à la puissance et au gigantisme de l'œuvre de Shakespeare. Je trouvais que c'était deux géants qui pouvaient se compléter. Je me suis dit que j'allais prendre une œuvre pour une pièce, une œuvre pour l'autre pièce, donc j'ai choisi le concerto pour violon de Richard, parce que Richard, c'est une œuvre de jeunesse, et ce violon très très aigu, acide, je trouvais que ça y correspondait bien. Et pour Le Roi Lear, j'ai choisi le concerto pour violoncelle, qui, lui, est beaucoup plus sombre et grave.
Un mot aussi peut-être sur la rencontre que vous organisez avec Jean-Louis Benoît au Théâtre de la Criée, le mardi 19 à 20h. Alors, pourquoi justement avoir organisé cette rencontre débat?
L'œuvre de Shakespeare aujourd'hui suscite un engouement, une curiosité absolument phénoménale. Tout à fait impressionnant, le nombre de Rois Lear qui ont été montés ces dernières années, je crois qu'il y en a 5 ou 6 dans les 2 dernières années. Aujourd'hui, c'est comme si l'œuvre de Shakespeare, non pas qu'elle était redécouverte, elle n'a jamais été oubliée, mais c'est comme si elle retrouvait une légitimité, une pertinence par rapport à notre époque qui est évidente, voilà. C'est toujours intéressant, voilà, de débattre avec le public. Moi, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours passionné. J'espère que ce sera l'occasion d'un débat aussi riche que ceux qu'on a déjà eu, j'en suis sûr.
Merci pour cet entretien, Jean-Claude Fall. Et donc, à la semaine prochaine au Théâtre Nono.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Enfin, quelques mots sur le metteur en scène. Après avoir fondé en 1982 le Théâtre de la Bastille à Paris et dirigé le Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, Jean-Claude Fall dirige depuis 1998 le Théâtre des 13 Vents, Centre dramatique national de Montpellier. Depuis 1974, date de sa première création avec Philippe Adrien, Jean-Claude Fall a mis en scène une 60aine de spectacles pour le théâtre et l'opéra. Ses choix de textes favorisent le débat historique et de société, et sa démarche artistique s'attache à la responsabilité de la prise de parole publique qu'est la représentation. À noter également la rencontre Shakespeare si loin, si près avec Jean-Claude Fall et Jean-Louis Benoît, directeur du Théâtre National de la Criée. Animée par Gérard Liébert, dramaturge et universitaire, cette rencontre aura lieu le mardi 19 mai à 20h au Théâtre de la Criée. Entrée libre sur réservation au 04 91 54 70 54. Le Roi Lear et Richard III de William Shakespeare en alternance du 13 au 17 mai à 20h au Théâtre Nono dans la campagne Pastré à Marseille 8e. Et en intégrale le samedi 16 mai, Le Roi Lear à 15h et Richard III à 20h. Richard III est également présenté le dimanche 17 mai à 15h. Réservation au 04 91 54 70 54 ou sur internet www.théâtre-lacrier.com, mais aussi à l'espace culture sur la Canebière à Marseille et dans les points de vente Fnac et Virgin. Bon spectacle et belle découverte!